Bienvenue. Ce soir encore, Raphaël Bourgois rencontre Laurence Parisot. Tout de suite, le temps de la réflexion.
Bonsoir Laurence Parisot.
Bonsoir.
Nous voici arrivés à notre dernier entretien. Nous avons toute cette semaine retracé votre parcours jusqu'au départ du MEDEF en 2013. Je crois qu'on peut dire que plusieurs traits de votre caractère se sont dégagés au cours de ces émissions. Une audace qui frise parfois à la témérité dans cette façon que vous avez eu à plusieurs reprises d'affirmer votre volonté de diriger, même si la veste pouvait sembler un petit peu grande au début, une approche à la fois pragmatique et morale des questions économiques et sociales, une sensibilité libérale affirmée dans tous les aspects de la vie. On a pu voir que vous aviez un goût pour l'action, mais aussi pour le travail intellectuel. Et c'est là-dessus que j'aimerais terminer cette série d'entretiens sur la façon dont votre parcours a alimenté votre réflexion. Et peut-être commencer par la question du féminisme que nous avons effleuré à plusieurs reprises. Vous avez dit avoir pris conscience assez tard de la misogynie. Quel est aujourd'hui, selon vous, l'enjeu principal pour les femmes, le combat ? Et les combats, évidemment, il y en a plusieurs qui restent à mener.
Aujourd'hui, l'enjeu principal est d'éviter d'être dupe. On a eu tellement confiance en nous ces dernières décennies. Nos grands-mères ont conquis leur liberté sur leur corps, notamment nos mères sur la vie économique en ayant accès au travail. Et notre génération a cru que l'essentiel était gagné, il restait quelques postes à occuper en politique ou à un niveau élevé de l'économie, mais en gros, ça y est, c'était fait. Aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est que non, il faut continuer à revendiquer, il faut continuer à dénoncer, il faut continuer à se mobiliser. Et là, je trouve que Internet et les réseaux sociaux nous aident grandement, peuvent jouer un rôle très constructif, avec du coup une façon de faire très différente des féministes des années 60, une façon moins agressive peut-être, moins acharnée, mais plus constante, avec de l'humour. Je pense par exemple à un slogan qui est très présent sur Facebook ou sur Twitter, qui est « Jamais sans elle », pour dénoncer toute réunion exclusivement masculine, par exemple. Voilà, c'est ce rappel constant, permanent, dans tous les milieux qu'il faut faire. Là où on a besoin vraiment d'une sérieuse évolution, c'est dans l'éducation, que ça soit à l'école ou dans les familles. Là, il y a encore des préjugés, des stéréotypes, des réactions qui sont totalement datées et qui conduisent à ce que la petite fille ou la jeune fille ne prenne pas la mesure de tout ce qu'elle peut faire, de toute sa liberté et de tout son potentiel.
Par exemple, quel a été votre regard sur la polémique qui a entouré la mise en place par Najat Vallaud-Belkacem de ce qu'on a appelé les ABCD égalité, c'est-à-dire d'apprendre dès le plus jeune âge que l'inégalité entre les hommes et les femmes, c'est une inégalité sociale, une inégalité construite?
Alors, l'inégalité entre les hommes et les femmes, elle existe, elle est physique. Mais il y a en plus une inégalité construite, effectivement, par cette forme de racisme qu'est la misogynie. Et moi, je soutenais totalement Najat Vallaud-Belkacem. Elle avait raison de chercher, par ses cahiers, à la dénoncer, à ouvrir les yeux. Et je trouve que là, on a déclencher un débat stupide pour des raisons purement partisanes. Je le dis d'autant plus que j'ai vu dans les gouvernements précédents de droite des femmes de droite adhérer aux mêmes principes que ceux de Najat Vallaud-Belkacem.
Vous avez écrit en 2011 un livre qui s'appelait « Un piège bleu marine » co-signé avec Rose Laprelle, dont vous avez déjà parlé au cours de ces entretiens. Alors, vous y attaquiez plus le programme économique de Marine Le Pen, mais c'était aussi cette France du repli sur soi qui vous paraissait devoir être dénoncée. Là encore, c'est une prise de position presque politique, intellectuelle, dans le débat public, Laurence Parisot.
Aussi une prise de position politique, ça ne fait pas de doute. C'est une prise de position économique, mais c'est avant tout un cri d'alarme et un cri pour défendre la France. Si nous basculons, sans même s'en rendre compte, vers un vote Front National et vers une adhésion progressive aux idées du Front National, c'est, je trouve, la fin de notre pays. Le danger est extrême. Et la confusion intellectuelle vient très largement des débats tels que Jean-Marie Le Pen puis sa fille Marine Le Pen les ont installés. C'est effectivement la question de l'identité. Et ils ont fait croire qu'on pouvait revenir à une identité comparable à celle que nous avions dans les années 50 ou 60. Et ils laissent penser que c'est possible. Ça ne le sera jamais, en aucun cas. Le retour vers le passé ne peut pas exister. L'identité, ce n'est pas quelque chose de fixe, c'est quelque chose de mouvant, c'est quelque chose qui évolue en permanence et qui prend en compte des évolutions démographiques, des évolutions technologiques aussi. Et il y a, quand on veut revenir en arrière sur le mariage pour tous, quand on veut considérer que la question d'égalité homme-femme est secondaire, et quand on veut une France avec des frontières bien fermées, on veut un modèle étriqué, un modèle de repli sur soi, un modèle qui n'est même pas en réalité celui qui dominait les années 50, contrairement à ce qu'on laisse entendre, parce que les années 50 préparaient l'ouverture, les années 50 préparaient l'égalité pour tous, les années 50 foisonnaient d'idées nouvelles et d'idées qui mettaient toujours le respect et la dignité de chacun au cœur de toutes les réflexions. Et ça, on est en train de l'oublier. Le respect et la dignité pour chacun.
Est-ce que, Laurence Parisot, vous feriez un lien causal, un lien important, justement, entre la liberté économique, l'ouverture dans l'économie et l'ouverture, justement, dans la société contre ce repli?
Oui, il y a un lien, c'est évident. L'économie de marché, c'est l'échange. L'échange, c'est pas simplement l'échange des produits, des biens et des services, c'est l'échange d'idées, c'est l'échange de culture, c'est les rencontres qui favorisent la mixité. Et il faut ne jamais oublier que c'est parce que deux cultures se rencontrent, deux idées se frottent l'une à l'autre, que de nouvelles idées naissent, que de nouvelles cultures émergent, qu'il y a de la créativité, qu'il y a du progrès. Si on reste entre nous, on va ratiociner. Et en cela, l'économie libérale rencontre la philosophie libérale, la politique libérale, les idées libérales. L'économie libérale a eu des excès, mais il faut savoir les regarder en face et se demander comment on les corrige. On n'a d'ailleurs pas trouvé toutes les solutions, loin de là. Mais la philosophie libérale, les idées politiques libérales, moi je n'ai encore jamais rien trouvé de mieux pour, encore une fois, inscrire l'homme au cœur et au départ de toute réflexion.
Ce qui alimente ce repli sur soi, Laurence Parisot, c'est ce que la rédactrice en chef du Guardian a appelé l'ère de la post-vérité. C'était juste à l'issue du Brexit. On a vu que cette ère de la post-vérité a alimenté aussi la campagne de Donald Trump aux États-Unis. Ça doit vous mettre particulièrement mal à l'aise, vous qui avez justement consacré toute votre énergie professionnelle et dans l'action publique à justement mettre en avant des vérités démontrées par les sciences sociales.
Je trouve très intéressant ce concept de post-vérité qui mérite d'être un peu travaillé, mais qui montre bien la dérive actuelle, qui montre bien le danger que nos démocraties occidentales sont en train de rencontrer, c'est-à-dire on s'éloigne de la vérité. Et surtout, on s'accommode de pseudo-vérité. Je crois que c'est ça, la post-vérité. C'est une capacité à s'accommoder de. Quand dans le Brexit, Dès le lendemain du résultat du référendum, Nigel Farage reconnaît dans une grande émission de journalistes anglais qu'il a triché sur certains chiffres. C'est stupéfiant et c'est ça la post-vérité. Quand Donald Trump commence déjà à revenir sur des moments forts de sa campagne, des décisions, des annonces fortes de sa campagne, en disant « bon, ben, c'est pas grave, je l'ai dit, mais je vais faire autrement », c'est de la post-vérité et c'est donc la version moderne de la démagogie, de la tromperie. Mais ce qui est effrayant, c'est que la tromperie est désormais assumée. La tromperie est relativisée. C'est là que la démocratie est en danger.
Et justement, pour se sortir de ce danger, est-ce que vous croyez à ce qu'on a appelé la démocratie participative, même si c'est vrai qu'elle est peut-être un peu moins aujourd'hui défendue, cette démocratie participative? Je pense notamment à une initiative que vous avez eue et qui a donné lieu à un livre, Besoin d'air, c'était en 2007, qui était le fruit d'une réflexion collective sur les enjeux économiques pour la France. Quel est votre regard, vous, peut-être, voilà, sur cette réponse à ce que vous venez de dénoncer, que pourrait apporter, encore une fois, une plus grande horizontalité, une participation plus importante des citoyens?
Alors, je pense que c'est l'avenir. Vous avez raison de dire que c'était peut-être plus à la mode dans le discours il y a quelques années qu'aujourd'hui, la démocratie participative.
Notamment à l'occasion de la campagne de Ségolène Royal en 2007.
Exactement. C'est elle qui a lancé le concept, en tout cas en politique, parce que, à l'époque, ça existait déjà dans l'entreprise et on parlait de management participatif parce qu'on commençait à réaliser qu'on avait intérêt à écraser, à aplatir les hiérarchies. Moi, je pense que dans le monde numérique d'aujourd'hui, où de plus en plus de choses se passent via les réseaux, notamment les réseaux sociaux, ou via des groupes constitués, le groupe là de protection des oiseaux, le groupe là pour l'égalité homme-femme, et où le travail se fait beaucoup au niveau de ces forums spécifiques, quelles que soient leurs modalités, quel que soit leur format, je pense que tout ceci va plutôt se multiplier. Et le défi démocratique, c'est comment faire en sorte que ces différents publics qui se constituent à des moments ou sur des sujets spécifiques peuvent ensuite, dans un projet au niveau d'une nation ou dans un projet au niveau de plusieurs nations comme l'Europe, comment ces différents publics peuvent ensuite se retrouver, se regrouper dans un projet qui dépasse leur thème de départ. Ça, c'est l'enjeu. Mais de la même façon que sur beaucoup de questions, par exemple dans les questions environnementales, je crois à la démocratie participative, il me semble que désormais il faut se demander comment on peut refonder l'Europe avec cette logique-là. Et c'est une logique qui élimine un certain nombre d'intermédiaires qui éloignent le citoyen de la gouvernance effective des grands pays.
Vous avez évoqué, Laurence Parisiot, l'Europe à plusieurs reprises comme une solution, ou en tout cas comme un lieu possible de dépassement d'un certain nombre de problèmes que peut connaître aujourd'hui la France et plus largement donc les États peuvent connaître les États européens. L'Europe souffre aujourd'hui d'une mauvaise image qui est notamment un problème de décision, un problème institutionnel. Comment est-ce que vous voyez une forme d'avenir, voilà, pour l'Europe et sur ces questions-là? Les questions institutionnelles n'ont jamais vraiment mobilisé Laurence Parisiot.
Oui, c'est très difficile. Le déclic passera peut-être par l'émergence d'une personnalité. Ça, c'est tout à fait possible parce que c'est ainsi que souvent l'Europe a avancé. C'est parce qu'à un moment, il y a eu Jean Monnet, que les fondations ont été construites. Et puis, il y a eu des couples historiques bien connus, de Gaulle-Adenauer jusqu'à Mitterrand-Kohl, en passant par Giscard Schmitt, etc. Mais je pense qu'il faut aussi se demander comment des initiatives citoyennes pourraient nous faire regarder l'Europe autrement. Vous savez que dans son traité constitutionnel, l'Europe prévoit que les citoyens européens peuvent lancer des pétitions, voire des formes de référendum. Il me semble que là, il y a une voie à explorer qui n'a pas encore été totalement utilisée. Il y a eu quelques tentatives, mais qui ont plutôt échoué. Mais peut-être qu'un jour, c'est par la base, finalement, par le citoyen, que une nouvelle Europe pourra être esquissée. Car je crois que d'une manière ou d'une autre, notre grande mission, c'est bien de construire et de faire avancer la construction européenne. Il ne faut jamais oublier que l'Europe est la seule zone géographique sur la planète qui protège totalement les droits de l'homme, totalement, et qui interdit la peine de mort. Il n'y a pas d'autres régions dans le monde où on peut vivre ainsi. Et je crois qu'on a tendance à l'oublier. Les politiques n'aiment pas rappeler cela. Ils ne savent pas donner du tout de chaleur à l'Europe, parce que là encore, ce n'est pas leur intérêt. Les politiques, ils ont du pouvoir, ou une illusion de pouvoir au niveau national. Et si l'Europe prenait ce pouvoir, il serait trop démunis et désespérés. Donc c'est pour ça que le passage par le citoyen s'avérera peut-être nécessaire.
Alors peut-être que le revers de la médaille de cette responsabilité qu'on donne de plus en plus à l'individu, aux citoyens, par le biais notamment des plateformes sur Internet, c'est ce qu'on a pu appeler l'ubérisation de la société. Chacun devient l'entrepreneur de soi-même et responsable de son parcours, de sa formation, de savoir changer, se former, en effet déménager. Quel regard vous avez là-dessus, Laurence Parisot ? Est-ce que ce qu'on appelle l'ubérisation, c'est d'abord une chance ? Une initiative, ou est-ce que c'est quand même quelque chose qui pèse de plus en plus sur chacun d'entre nous ?
Alors, c'est globalement une chance. Bon, je n'aime pas beaucoup le mot, même si maintenant il a l'avantage d'être compris par beaucoup. Je n'aime pas le mot parce que dans le phénomène spécifique d'Uber, j'ai plutôt tendance à respecter et à défendre les chauffeurs de taxi traditionnels qui sont... des entrepreneurs individuels tout à fait courageux, des artisans. Mais ce que ce concept indique, c'est effectivement la possibilité pour chacun de construire son entreprise, de développer son service, d'avoir finalement des possibilités qu'il n'aurait jamais eues autrement, parce qu'il y a une plateforme de service, une plateforme logistique plutôt, et informatique, qui est le point d'appui sur lequel on peut greffer son activité. Ça, je trouve ça tout à fait intéressant. Ça laisse beaucoup d'espace, beaucoup de possibilités à chacun.
Mais comment est-ce que les partenaires sociaux, puisque ce qui se pose comme question, c'est justement la protection sociale de ces travailleurs indépendants, auto-entrepreneurs, quel peut être le rôle, selon vous, des partenaires sociaux, justement, pour les accompagner ? Est-ce qu'il faut qu'ils intègrent une sorte de régime général qui est celui de la protection sociale aujourd'hui ? Est-ce qu'il faut être imaginatif ?
Alors moi, je suis très favorable à une grande réflexion sur la protection sociale qui permette de mieux protéger tous les indépendants, quels qu'ils soient, parce que avant même ces travailleurs liés à l'ubérisation, comme vous dites, avant même ceci, vous avez beaucoup de métiers, les patrons de TPE, les artisans, les auto-entrepreneurs, qui ont vraiment le dixième et même pas de la protection sociale dont bénéficient les salariés d'une part, les fonctionnaires d'autre part. Donc il y a, qu'on soit dans une logique d'ubérisation ou pas, vraiment à faire en sorte que tout travailleur indépendant puisse avoir un niveau de garantie proche de la plupart du reste de la population. Que les partenaires sociaux s'emparent du sujet, oui, ça me semble être effectivement une bonne approche, à condition qu'on ne cherche pas à fonctionnariser tout le monde. Il ne faut pas avoir comme modèle idéal celui de la fonction publique. C'est malheureusement un peu trop prégnant dans les débats. On se dit que le meilleur salarié, c'est celui qui est hyper protégé, voire garanti dans toute sa carrière, comme l'est presque un fonctionnaire. Il ne faut absolument pas avoir cette logique-là à l'esprit, parce que c'est une logique qui, in fine, aboutit à ce qu'il y ait deux mondes, un monde ultra protégé et un monde ultra démuni. Donc il faut qu'il y ait un meilleur partage du risque dans l'ensemble de la société. Et pour ça, il faut accepter une part d'incertitude. Oui, on n'aura peut-être pas le même contrat de travail toute sa vie. Oui, on va prendre un risque en devenant un chauffeur Uber. Oui, voilà. Mais il faut qu'en échange de cette incertitude, il y ait un filet de sécurité qui protège tout le monde d'une chute trop douloureuse.
C'est votre fameuse phrase qui vous avait à l'époque attiré une certaine volée de bois vert sur « tout est précaire, la vie, l'amour, pourquoi pas le travail ?»
Oui, mais cette phrase a été... je ne la renie pas du tout parce qu'elle est vraie, cette phrase. Simplement, elle a été interprétée comme si c'était un souhait, alors que c'était tout simplement une observation. Et je fais cette observation de la précarité comme caractéristique de la vie pour... qu'on soit bien dans le réel. Moi, je n'aime pas quand on raisonne dans l'illusion. Puisqu'on observe ça, puisqu'on peut philosophiquement reconnaître ça, alors à partir de là, sachons bâtir le meilleur système de protection sociale possible.
Et quel est-il ? C'est un système qui est attaché à l'individu, un système qui est plus général, qui concerne tout le monde de la même façon, Laurence Parizeau ?
Alors oui, je pense qu'il faut qu'il y ait un socle de protection identique pour tout le monde, qui soit financé par la solidarité nationale, que ce socle soit le plus épais possible, le plus large possible, ça me semble être tout à fait nécessaire. Et puis, au-delà de ce socle commun, on doit penser à un certain nombre de mécaniques mixtes, à la fois publiques et privées. Il ne faut pas avoir peur de favoriser des fonds de pension, par exemple, qui seraient une offre de plus aux retraites publiques. Vous savez qu'il y a quand même quelque chose qui est très paradoxal. Il n'existe en France qu'un seul fonds de pension. Ça s'appelle la préfonds. Et la préfonds, c'est le fonds de pension de la fonction publique. C'est-à-dire que dans la législation française, seuls les fonctionnaires ont accès à un fonds de pension. Je ne vois pas pourquoi le secteur privé n'aurait pas lui aussi accès à des fonds de pension.
Alors pour imaginer peut-être justement cette protection sociale du futur, on a parlé des partenaires sociaux, on a parlé des politiques, on a assez peu parlé des sciences sociales. Pourtant, Laurence Parizeau, c'est évidemment avec votre formation à Sciences Po, formation de politologue, les sciences sociales vous alimentent, vous ont alimenté tout au long de votre parcours. Comment vous expliquez que, d'ailleurs, nous n'en ayons pas parlé plus tôt ? Est-ce que ça reflète aujourd'hui le peu de cas, peut-être, qu'on fait des sciences sociales ? Je sais que, sur certains sujets, vous avez tenu, à plusieurs moments de votre parcours au MEDEF, à faire venir des chercheurs pour parler des sujets, peut-être pour ouvrir un peu les esprits. Quelle est la place aujourd'hui des sciences sociales dans la réflexion et dans l'action, surtout, Laurence Parizeau ?
Alors, moi, je pense que la science sociale... a été très vulgarisée et tout le monde fait régulièrement de la sociologie. C'est-à-dire que dans tous les débats, on essaye de relater les faits de la manière la plus objective possible et de leur donner un sens. Donc la sociologie est très présente. En revanche, il y a d'autres disciplines qui me semblent être très en retrait. La psychologie, par exemple, la psychanalyse, qui est quand même vraiment une des plus grandes découvertes du siècle dernier et qui est très négligée, comme si nous n'avions pas chacun un inconscient. Et sans être capable de connaître son inconscient, le fait même de savoir qu'il y en a un est tout à fait important. Dans un monde où la folie est très visible et très présente, y compris la folie terroriste, avoir un peu plus recours à ces disciplines-là, comme la psychologie ou la psychanalyse, ça me semble tout à fait important. Et puis, il y a une discipline que je trouve passée aux oubliettes, ou quasi, c'est la philosophie. Et pourtant, les Français ont une appétence pour cela. Mais la philosophie demande du temps, demande que le philosophe puisse argumenter, dérouler sa pensée, ce que le talk show basique d'une chaîne info ne permet pas. Il n'y a que chez France Culture qu'on peut se donner ce temps-là. Donc, en fait, ces disciplines sont toujours très riches dans notre pays, mais sont occultées par des médias qui sont dans une logique quand même de basse course commerciale à l'audience.
Il y a évidemment les médias pour la vulgarisation vers le grand public, mais on pourrait imaginer que les hommes politiques, les décideurs au sein des entreprises également aient plus recours aux sciences sociales. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui est cassé là aussi aujourd'hui?
Alors, je ne crois pas. Au contraire, les chefs d'entreprise de plus en plus cherchent à recruter des personnes de haut niveau qui leur apportent la culture générale qui manque bien souvent dans un univers de spécialistes. Les politiques, eux, ne sont presque pas là-dedans. Je ne dis pas qu'ils n'ont pas plaisir à rencontrer quelques intellectuels, mais comme le rythme des politiques est calé sur le rythme des chaînes info ou des flashs radio, eux ne se donnent plus ce temps-là. La question du temps long est une question devenue essentielle. Là, je dois dire que les marchés financiers ne nous ont pas aidés et les médias non plus.
Alors, une page se tourne pour vous, Laurence Parisot, au moment où on enregistre ces entretiens. Vous avez cédé l'IFOP en novembre 2016 à la famille d'Entresangle, qui pourra, c'est votre explication, assurer les investissements nécessaires pour relever notamment les enjeux du numérique et les transformations, évidemment, qui doivent s'opérer au sein de cet institut. Alors, évidemment, la question brûle les lèvres, qu'allez-vous faire maintenant? On vous a prêté des envies politiques. Est-ce que c'est vers là que vous avez envie d'aller?
Ce n'est pas impossible. Il peut y avoir un combat politique si jamais j'estime que le risque d'une victoire du Front National devient sérieux. Dans ce cas-là, je ne supporterai pas que mon pays puisse basculer dans le pire. Et un engagement serait quasi certain dans cette hypothèse malheureuse. En attendant, j'ai beaucoup d'autres possibilités. D'abord, un temps de réflexion est nécessaire. Il faut savoir se régénérer. Il faut savoir s'actualiser aussi et renouveler sa pensée. Donc ça, c'est pour moi indispensable d'avoir ce temps de réflexion. Et puis, je suis toujours chef d'entreprise. J'ai toujours cette passion de la direction d'entreprise chevillée au corps. Et donc, on peut aussi imaginer que je reprenne une entreprise d'une nature différente de celle de l'IFOP, sachant que l'IFOP restera toujours dans mon cœur, vraiment comme la chose dont je suis probablement le plus fier.
Ce serait peut-être temps de vous consacrer à la photographie. Je sais que c'est un de vos hobbies.
J'adore ça. C'est aussi une façon d'observer la société que de prendre des photos. C'est aussi, et pour moi c'est essentiel, accorder de l'importance à la beauté ou à la laideur par effet miroir. Mais la laideur ne se reflète pas dans le miroir de la beauté, mais par effet inversé, je voulais dire. Mais l'esthétique va avec l'éthique. Et pour moi, c'est la combinaison idéale. C'est en ça que je pense que le libéralisme est vraiment une valeur très forte. Le libéralisme favorise une esthétique et une éthique de la pensée. Je pense qu'il faut revenir sur ces principes essentiels.
Merci beaucoup, Laurence Parisot, de nous avoir accueillis toute cette semaine et de nous avoir accordé cette série d'entretiens à voix nue.
Mille merci à vous.
Fin de cette rencontre de Raphaël Bourgois avec Laurence Parisot. À voix nue, attaché d'émission Claire Poinsignon, prise de son Yann Fressy, réalisation Marie-Laure Ciboulet, coordination Bellindola. Cette émission s'écoute en ligne et se télécharge sur franceculture.fr. Et dès lundi, une nouvelle rencontre.